Bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation. Je suis Daniel Murray-Thomas, journaliste télé devenu média-traîneur. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Maxime qui est « Comment utiliser PowerPoint sans que cela nuise à une prise de parole en public ?» Pour répondre à Maxime, j'ai appelé l'expert dans le domaine, à savoir Pascal Aumont. Pascal, tu es formateur en prise de parole en public, auteur d'un livre que j'avais recensé sur mon blog « Pourquoi PowerPoint ne sert à rien si on s'en sert mal ?» En fait, que ce soit les profs, les étudiants, l'entreprise et même les politiques, tout le monde est concerné.
Ouais, tout le monde est concerné. C'est un truc absolument incroyable. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, personne n'utilisait jamais PowerPoint pour la simple et bonne raison que ça existait très, 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 très peu. Et puis, donc, pendant des centaines de milliers d'années, les gens, ils ont parlé sans PowerPoint et ça s'est très bien passé. Et depuis une vingtaine d'années, tout le monde, en entreprise, à l'école, à l'université, comme tu dis, parfois même les politiques, utilisent PowerPoint et on a l'impression qu'on ne peut absolument plus s'en passer. Donc, en quelques années, il y a une révolution totale sur le sujet, là, tout à fait.
Ce produit qui est né de mémoire en 1987 sous licence Mac et qui ensuite a été racheté par Windows, et nous connaissons la suite.
Ouais, et forcément, Microsoft s'est dit, ah bah, y a vraiment un truc à creuser là-dedans, donc ils l'ont racheté. Mais au départ, PowerPoint ne servait pas forcément à faire des projections pendant une présentation orale. C'était pour partager des éléments de manière différente qu'avec un traitement de texte ou avec un tableur. Et puis, c'est après qu'à bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Mais on peut projeter ? Alors projetons !» Et c'est là que tout a changé.
Oui, et toi, tu as travaillé aux États-Unis. Donc, tu as vu de l'intérieur le pire et le meilleur de PowerPoint, ce qui te permet aujourd'hui d'être un trait d'union entre l'entreprise et puis ceux que j'appelle les communicateurs, celles et ceux qui sont habitués à prendre très souvent la parole pour dire souvent la même chose.
J'étais ingénieur en informatique en France et aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, moi, j'ai travaillé chez Google. Donc, de l'autre côté, et ça fait dire aussi qu'on utilise PowerPoint comme un terme générique, comme on dit un Kleenex, mais finalement, un PowerPoint, ça veut dire un diaporama, une présentation, un outil qu'on utilise pour projeter des éléments sur un écran ou sur un mur pendant qu'on parle. Donc, chez Google, c'était Google Presentation, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Google Slideshow, quelque chose dans l'esprit, mais la question est la même. Et tous les gens qui me disent... Ouais, mais maintenant il y a Prezi. Bon, bah Prezi, bah ça reste la même question, c'est que on est toujours en train de projeter des choses. Donc c'est pas l'outil en lui-même qui a blâmé quand il y a des raisons de le blâmer, mais c'est surtout la manière dont on utilise l'outil. C'est pas le marteau, c'est le fait de se taper sur le doigt avec le marteau qui fait mal.
Et alors que ces trois lettres sont devenues magiques, PPT, et qu'elles étaient faites pour améliorer tout de même une réunion, aujourd'hui, elle pourrait être synonyme de présentation pauvre et triste, parce que nous allons le voir, ça a été même l'objet de ta part d'un ouvrage, plein de défauts, trop surchargé. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire un des chiffres qui m'avait marqué en te lisant, 95% des PowerPoint sont faits sans méthode.
J'avoue que ce 95%, je l'ai un peu sorti de mon chapeau. Je n'ai pas fait un sondage à la sortie des présentations pour savoir si c'était fait avec ou sans méthode. Ça me semble assez ressemblant à la réalité d'après ce que j'entends en entreprise. Quand je vais faire des formations prise de parole en public en entreprise, je leur dis alors, quand vous faites de la prise de parole, vous utilisez PowerPoint ou pas ? Ouais, on utilise PowerPoint. Et je vais vous montrer quelques diapos qu'on voit très couramment. Ah ouais, effectivement, je les reconnais, c'est celle-là qu'on fait. On est d'accord qu'il y a un problème avec ces diapos, avec 6 puces et beaucoup de texte derrière les puces. Oh, ouais, on est d'accord. Mais vous le faites quand même. Ah ouais, on le fait quand même, ouais. Pourquoi ? Bah, parce qu'effectivement, il n'y a pas de méthode. Et souvent, d'ailleurs, le premier réflexe, quand on fait une présentation, quand on prépare une prise de parole en public, et d'ailleurs, moi-même, je fais le lapsus, c'est qu'on dit « tu me feras un PowerPoint pour la réunion de vendredi ». On ne dit pas « tu feras une prise de parole en public et tu pourras éventuellement, si tu le souhaites, rajouter un diaporama que tu pourras éventuellement créer avec le logiciel PowerPoint ou un autre logiciel ». Non, on dit « tu me feras un PowerPoint ». C'est le raccourci. Et donc, on est en mode automatique PowerPoint. Donc, quand on doit prendre la parole en public, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre PowerPoint, on crée une diapo, on met des infos dessus. Quand il n'y a plus de place sur la diapo, on en crée une deuxième. On en fait 8, 10, 15, 20, 100. Et après, on les replace un peu là pour se dire qu'il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur. Et donc, on a l'impression d'avoir utilisé une méthode, d'avoir appliqué une méthode, mais en fait, non, il y a zéro méthode parce que, évidemment, toute prise de parole en public doit d'abord se préparer en dehors de PowerPoint. Qu'est-ce que je suis venu dire? Quel est mon message principal? Comment je vais commencer? Comment je vais terminer? Qui est mon auditoire? Où est-ce que je veux l'emmener? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter pour toucher aussi à leurs émotions? Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai le scénario de ma présentation, que ce soit un conférencier inspirant ou une chef de projet en entreprise ou le directeur financier, voilà, ou n'importe qui, je dois d'abord construire ma présentation et après, je me dis, tiens, pour chaque chose que je dois dire, est-ce que ça a du sens de rajouter quelque chose de visuel pour que les gens comprennent mieux et ou mémorisent mieux ce que je suis venu dire. Si oui, alors ça a du sens de créer une diapo. Pas une diapo avec plein de puces, comme on voit tout le temps, mais une diapo vraiment visuelle. Et visuel, ce n'est pas que des photos, ça peut être des graphiques, des schémas, des symboles, du texte, oui, mais du texte court avec des mots mis en valeur. Ça peut être des photos, ça peut être des dessins, enfin tout ce qui est de l'ordre du visuel. Et là, le PowerPoint prend du sens.
Si je te demande, Pascal, ce que tu as le plus rencontré quand tu étais en entreprise ou ce que tu constates le plus quand tu accompagnes tes stagiaires, c'est quoi? C'est que les slides sont hyper chargés?
Oui, c'est trop chargé parce que on a tous et toutes besoin d'être rassurés. Et quand on crée une diapo et qu'on met plein de mots dessus, on est rassuré parce qu'on se dit, bah, comme ça, je ne vais rien oublier. Tout est sur ma diapo. Les gens disent, ah oui, ça me sert de fil conducteur. C'est quand même vachement utile pour moi. Alors effectivement, on a des diapos trop chargées qui servent de prompteur. Et le prompteur, bah, toi, tu viens de la télévision. Tu sais ce que c'est. Un prompteur, c'est un truc qui est super, qui va servir à Nikos Aliagas quand il présente... La Star Academy, de dire bonne journée pour nos élèves à la Star Academy. Aujourd'hui, ils ont bataillé ferme pour être top. Et il lit son prompteur qui est juste devant la caméra, donc on a l'impression qu'il nous regarde dans les yeux. Il lit son prompteur, mais il a l'amabilité de ne pas nous montrer son prompteur. Que nous, quand on fait des prises de parole, quand les gens font des présentations PowerPoint, ils affichent leur prompteur. Et comme ils affichent leur prompteur, on a effectivement des diapos qui sont très, très chargé, puisque à peu près tout ce qui est dit est également écrit sous forme de longs paragraphes ou sous forme de puces. Et si on est un peu sophistiqué, sous forme de puces, avec les puces qui arrivent les unes après les autres, ce qui est déjà un gros progrès, c'est de faire apparaître les éléments au fur et à mesure qu'on les dit, ce qui est déjà mieux.
Sans compter le moment où l'on trouve l'onglet « animation », et puis là, c'est une ivresse et parfois, la présentation, ça devient un véritable jeu vidéo.
Moi, je dis un sapin de Noël, un jeu vidéo, j'aime bien aussi. Ben oui, parce qu'on connaît tous ce moment où on est depuis 2 heures sur son PowerPoint, on est fatigué, on n'en peut plus. Et là, on s'accorde une petite récréation. Et dans la petite récréation, on va voir dans l'onglet « Animation ». Et là, non, mais c'est Disneyland. Hein. C'est t'as toutes les transitions, et le damier, les volets, les je sais pas quoi, les tourbillons et tout. On les essaye un petit peu. Et puis après, au bout d'un moment, il faut bien se remettre au vrai travail. Alors, on garde la dernière qu'on a mise. Et c'est là qu'il y a l'effet Disneyland, l'effet frime, le truc qui fait que on a une animation, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça fait un peu marrer la galerie. Ou ça fait dire aux autres,
ah, il a mis une animation. Ouais. Ah, ouais. Non, mais c'est sympa, l'animation.
Mais ça a l'effet un peu inverse.
Tu as cité Nikos. Effectivement, en télé, le principe du prompteur, ça peut se comprendre. Mais en public, qui imagine, pour reprendre une phrase célèbre, le général de Gaulle utiliser PowerPoint? Ou qui imaginerait Fabrice Luchini se servir d'un tel outil?
Eh ben oui, si Luchini il arrive et qu'il a sa fable de La Fontaine qui est déjà écrite sur le truc. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, et si c'est écrit derrière, il perd vraiment en prestance. On se dit Luchini qui est un des meilleurs orateurs qu'on ait, il perd. Pourquoi? Parce que on est tous et toutes des humains et les humains ont cette caractéristique de ne pas pouvoir faire deux choses à la fois. On ne peut pas, enfin, on peut faire deux choses à la fois si l'une des deux est automatique. Mais on ne peut pas écouter et lire en même temps Parce que notre cerveau, il ne peut pas faire ça. Donc, il passe tout le temps d'une tâche à l'autre. J'écoute, je lis, j'écoute, je lis. Énorme, énorme dépense d'énergie. Et comme il y a une énorme dépense d'énergie, le cerveau, qui est quand même plutôt paresseux, se dit, ouais, là, je vais dépenser l'énergie. Je vais plutôt penser à autre chose. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que j'ai bien déclaré mes impôts? Je ne sais pas, il va penser à plein, plein de trucs. Et l'attention, elle est perdue. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Si j'écris ce que je dis, je demande aux gens de faire deux choses à la fois, ils n'y arrivent pas. Et donc, je perds complètement en présence. Je ne suis plus là. Je laisse le PowerPoint prendre ma place. Ça, c'est dommage.
Dans une salle, Pascal, même s'il y a la concurrence du smartphone ou d'une pensée parasite, la présence de celui ou de celle qui parle peut faire la différence. Mais alors, en visio, quand c'est une succession de slides, là, c'est très vite foutu.
C'est dur. La quête de l'attention, elle est énorme. Là, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent en ce moment, on est en train d'essayer de conserver au maximum leur attention. On a une énorme concurrence. Comme tu dis, c'est le smartphone ou c'est tout ce qui peut se passer autour. Et en visio, on l'a tous et toutes fait, d'avoir une visio qui dure 2 heures et sur ces 2 heures, de passer énormément de temps à répondre à ses petits emails, à regarder des trucs, à consulter, à répondre à son conjoint ou sa conjointe, à faire autre chose. Et c'est bien normal, c'est bien humain. Surtout que, moi, quand je dis en entreprise, mais alors en visio, vous allumez les caméras ou pas? Et là, on me dit, ah non, non, en général, on les allume au début et encore, et puis très, très vite, tout le monde éteint sa caméra. Et les visios ne sont la plupart du temps même pas des visios, mais des audios. Et là, c'est hyper dur, cette solitude de la personne qui présente en audio, qui ne sait pas de l'autre côté ce qui se passe, si les gens sont encore physiquement là ou s'ils sont partis jouer au foot avec leur gamin, on ne sait vraiment pas. Donc oui, c'est très dur cette histoire de l'attention. Les visios, ça peut être formidable parce que ça évite des déplacements, donc c'est bien. Ça peut être formidable si tout le monde allume sa caméra et si la personne qui prend la parole veille à appliquer quelques trucs tout simples qui sont les mêmes qu'en présentiel, c'est-à-dire regarder les gens. Alors là, ce n'est plus les gens physiquement qu'on regarde, c'est l'œil de la caméra pour que tout le monde ait ce sentiment qu'on nous regarde et utiliser le PowerPoint à bon escient et surtout parfois le couper. Dire « Ok, des fois j'ai des choses à montrer, parfois je montre des choses et puis parfois je reprends la main et je reviens » en grand, et c'est moi qu'on voit parce que je m'adresse à des gens et ils sont là pour m'écouter et ils sont là pour qu'on échange. Donc, le PowerPoint en présentiel et en visio, c'est parfois super bien d'en avoir un s'il est bien fait et c'est très important de savoir le couper dans ces moments où il n'y a pas besoin d'avoir un visuel pour ajouter quelque chose, une couche supplémentaire à ce que je dis, parce que ce que je dis se suffit à lui-même et que je reprends cette présence et je reprends physiquement cette présence aussi, puisqu'on le voit aussi tout le temps, des gens qui prennent la parole avec un PowerPoint sont souvent, tu sais, à se mettre sur le côté, à regarder leur PowerPoint et puis à faire, et là, Miss Météo, quoi. Là, ça ne marche pas, quoi. On est déconnecté de l'auditoire.
Tout à l'heure, Pascal, tu évoquais le risque, parfois, avec un PowerPoint, d'en mettre trop sur les diapos. Ça devient un pense-bête, un prompteur. Mais toi qui es certifié DISC, n'y a-t-il pas des personnalités, des profils qui sont plus que d'autres tentés par cette idée de se rassurer, d'en mettre un maximum?
Y a les tempéraments. Et puis, il y a la culture de l'entreprise, il y a les habitudes, il y a ce qu'on a vu depuis 20 ans. Mais effectivement, le disque, c'est 4 couleurs. 4 couleurs, donc 4 comportements différents. Le disque s'intéresse au comportement avec, bien entendu, redire qu'on a les 4 couleurs en nous, que l'idée, ce n'est pas de s'enfermer dans une case, mais au contraire, de se connaître mieux pour pouvoir évoluer et pour mieux communiquer avec les autres. Et effectivement, il y a une couleur, c'est le bleu. Le bleu, c'est la conformité. Le bleu, c'est la personne qui s'intéresse au process, au comment est-ce qu'on fait les choses. C'est quelqu'un qui adore le détail. Et il faut, dans une équipe, des gens qui ont ce sens du détail, parce que sinon, on va droit dans le mur. Et ces gens qui ont le sens du détail, par contre, ils peuvent avoir effectivement ce défaut de se dire, comme j'ai le sens du détail et que je pense qu'il faut absolument que je donne toutes les informations à mon auditoire pour qu'il puisse prendre la bonne décision, ce qui est une erreur, parce que quand on donne toutes les informations, bah, les gens décrochent très vite, et bah, ils ont aussi forcément cette tentation de mettre toutes ces informations aussi sur le diaporama en disant « bah oui, je mets toutes les informations, je mets mon tableau à 47 entrées écrit en tout petit, je mets toutes ces informations, je mets tous les détails techniques ». Et on en vient à des choses complètement illogiques du style « ok, j'ai mis toutes les informations ». Oui, certes, mais la personne qui a 4 mètres n'arrive même pas à lire ce qu'il y a sur ton PowerPoint. Oui, mais enfin, j'ai mis toutes les informations, c'est important.
Tu nous as fait, Pascal, tout à l'heure, un premier cadeau en évoquant Luchini et le PowerPoint. Je n'ose imaginer ce que répondrait Jean-Pierre Bacry si on lui demandait de travailler avec cet outil.
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je suis comédien. Enfin, je suis comédien, je ne suis pas là pour afficher des textes. Si j'étais là pour afficher des textes, eh ben, je donnerais le texte aux gens, je leur enverrais par email, et puis moi, j'irais faire autre chose que de parler aux gens, puisque c'est un document que j'affiche. Ça n'a aucun sens. Ouais, Jean-Pierre Bacry, s'il était encore parmi nous et s'il bossait en entreprise, il passerait son temps à râler. Mais pourquoi tu me montres tous ces détails-là ? Enfin, je m'en tamponne complètement. Moi, ce que je veux savoir, c'est la décision qu'on va prendre à la fin. Et il y a ce phénomène de... Ah ouais, beaucoup de gens affichent un document. Et donc, un document, ça se suffit à soi-même, un document. Donc, si j'affiche un document, mais un document, ça se suffit à soi-même, je reconnais que bah, je suis là, mais je ne sers pas forcément à grand-chose. Et parfois, quand je pousse les gens un peu dans leur retranchement en formation, prise de parole ou en conférence, et je leur dis « D'accord, mais cette réunion-là, elle sert à quoi ?»« Bah, elle sert à ce que je puisse informer les gens. » »« Mais tu informes les gens, finalement, pour qu'ils en fassent quoi ?»« parce que c'est comme ça qu'on fait. » »« Ah ouais, d'accord. » Donc, c'est le poids de l'habitude aussi qui nous fait faire ça. Comme je te disais tout à l'heure, moi, quand j'étais ingénieur en informatique, je faisais comme tout le monde. Je n'avais pas le temps de me poser des questions. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous pour qu'on puisse aider ceux qui sont en entreprise et qui ont autre chose à faire que voilà, de se dire, mais on va se poser pendant un jour, pendant deux jours ou pendant une heure si c'est une conférence. Et puis, on va réfléchir à tout ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un PowerPoint ? Et qu'est-ce que je mets dessus pour que ce soit utile pour l'auditoire ? Pas pour moi, mais pour l'auditoire. C'est le plus important, l'auditoire, dans une prise de parole.
Pour faire un clin d'œil à Jean-Pierre Bacry, je dirais que c'est important l'auditoire et qu'en fait, en tant que speaker, il faut avoir le goût des autres. Si nous avons vraiment le goût des autres, nous serons guidés dans l'aménagement, par exemple, de la salle, que ce soit la salle de formation ou la scène. Et il y a une belle différence entre les États-Unis et la France, c'est la place que tient l'écran. Chez nous, il est central, alors qu'aux États-Unis, c'est le speaker qui a la vedette. Les écrans, les moniteurs sont de part et d'autre.
Les salles de réunion sont, c'est des grosses tables sur lesquelles il y a des chaises. Voilà, il y a des chaises autour sur lesquelles on peut s'asseoir. Et parfois, on n'a même pas la place de se mettre debout. Et parfois, on n'est même pas du même côté que l'écran. Et donc, se passe exactement ça, c'est-à-dire que les gens regardent l'écran et puis la personne qui parle, qui est assise autour de la table à côté. Et tu parles des États-Unis. Bah, alors, les États-Unis ont vraiment cette culture de l'oral depuis qu'ils sont enfants, depuis qu'ils ont 3 ans, ils arrivent et « Ok, let me talk to you about my family, my granddad. » Et ils parlent de leur famille et tout. Et dès qu'ils sont petits, ils savent faire ça. Pour autant, moi, ça m'avait frappé quand j'étais chez Google un jour. Eric Schmidt, qui est le patron de Google quand j'y suis en 2008-2009, c'est le patron de Google. Il vient dans nos bureaux à New York pour nous parler. Et qu'est-ce qu'il fait Eric Schmidt ? On se dit, bah, c'est Eric Schmidt, donc bah, il doit savoir prendre la parole et tout. Et Eric Schmidt, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise, alors pas un PowerPoint, un Google Slides, mais c'était des slides qui étaient quand même aussi très, très chargés. Donc, L'Amérique, je veux l'avoir, je l'aurai, mais une fois que je l'ai eu, bah, je me rends compte que malheureusement, ils ont été contaminés aussi malgré leur grand talent oratoire qui est né de leur histoire. Et malheureusement, ça a l'air d'être mondial, ce problème. C'est mondial, ça veut dire qu'il y a du marché, ça veut dire qu'il y a un vrai marché à conquérir. C'est ça la bonne nouvelle.
Pascal, nous avons beaucoup vu ce qu'il ne faut pas faire avec un PowerPoint. Et si pour terminer cette conversation, tu nous donnais quelques piste des bonnes pratiques?
Ce serait d'avoir ce mantra « Ne laisse pas PowerPoint prendre ta place ». Si Socrate avait laissé PowerPoint prendre sa place, Platon, il aurait fait « Plutôt que d'aller écouter Socrate, je vais aller me baigner, quoi ». Et on ne saurait rien de ce qu'a dit Socrate. Donc, ne laisse pas PowerPoint prendre ta place. Structure, réfléchis, dis-toi qu'est-ce que je suis venu dire à mon auditoire et ajoute des visuels si c'est nécessaire, si ça va aider à mieux mémoriser et ou à mieux comprendre ce que tu es venu dire. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, on va dire, c'est cette espèce de lieu commun, mais de sortir du cadre, de penser en dehors du cadre qui nous est imposé par la culture d'entreprise. Et ce n'est pas facile. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, mais oui, c'est super ce que tu nous dis, c'est tellement vrai, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Mais ça va être compliqué chez nous, parce que la culture, elle est faite comme ça. Il faudrait que tu parles à nos chefs. Bon, bah ok, passe-moi ton chef, moi je vais lui parler. Et puis, bah, fais des petits pas. Commence à faire des diapos où là où tu vas mettre vraiment que des choses visuelles. N'aie pas peur. Les gens ne vont pas dire, oh, il n'a pas travaillé, il a mis que des choses visuelles. Fais-le pour quelques diapos, vois les effets que ça a. Une fois que tu as vu que les effets que ça a et que tu as pu balayer tes croyances selon lesquelles les gens vont croire que tu es incompétent, eh ben, tu vas pouvoir le faire encore plus et te libérer au fur et à mesure de ce carcan qu'est parfois PowerPoint et qui depuis 20 ans nous emprisonne un peu dans une prise de parole qui devient encore plus, encore trop formatée.
Eh bien, un grand merci Pascal de nous avoir donné un échantillon de l'esprit qui anime tes formations et séminaires. Merci également d'avoir participé à Conversation. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt.
À bientôt.